Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Oh, je m'ennuyais de ce thème. Bonjour, bon début d'après-midi, Marianne Paquette au micro, qui vous souhaite une très, très bonne année 2015. Qu'elle soit douce, bonne, mais surtout en santé. Je vous le souhaite de tout cœur. Ben, on commence l'émission aujourd'hui. Ben, je vous pose une question. Est-ce que vous seriez prête à intervenir en cas d'urgence? C'est-à-dire, quelqu'un fait une crise, un malaise cardiaque à côté de vous ou encore s'étouffe. Est-ce que vous seriez prêt soit à relancer le cœur, à administrer les premiers soins, soit pour sauver un membre de votre famille, collègue ou même un inconnu dans la rue? Je souhaite que oui. Mais si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, je parle avec Joël Dargy, qui est président fondateur de premiersoins.com. Il est également formateur et il sera là pour nous donner quelques petits trucs. Mais d'abord, le 4 novembre dernier, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et le Centre de réadaptation La Maison procédaient au lancement de la première plateforme web interactive qui est destinée aux jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. C'est une plateforme qui s'appelle A pour autre. Je trouve que c'est un très, très joli titre et vous allez voir que c'est très, très approprié quand vous allez en savoir davantage. Et c'est destiné à appuyer l'enseignement des habiletés sociales chez les jeunes qui vivent avec l'autisme. Pour nous en parler, Marie-Hélène Poulin, professeure et directrice du module des sciences du comportement de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour.
Vous êtes à Rouen, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Est-ce qu'il fait froid? Parce qu'à Montréal, c'est assez glacial. J'imagine qu'un petit peu plus au nord, ça doit l'être aussi.
C'est plutôt arctique comme climat présentement.
Mais vous êtes bien au chaud et vous êtes là pour nous parler de cette plateforme A pour autre, qui est venue d'abord d'un constat, celui de se rendre compte que les outils, notamment les outils audiovisuels, est un petit peu désuet en ce qui a trait à venir en aide aux jeunes qui vivent avec l'autisme ou peut-être même désuet ou quasi absent.
Tout à fait. En français, en tous les cas, ils sont plutôt rares et ceux qui existent sont effectivement, ont mal vieilli, je dirais.
Et de quelle façon s'est créée cette plateforme-là? De quel désir c'est venu?
En fait, c'est le centre de réadaptation qui dessert la région ici. Le centre de réadaptation à la maison qui est venu faire un appel à l'université, à mon département, en disant « voici nos besoins ». En fait, il y avait besoin d'abord qu'on crée un recueil d'outils disponibles pour travailler les habiletés sociales et ensuite, il rêvait à un DVD aussi pour illustrer les comportements à enseigner aux jeunes. Mm-hmm. C'est en fait devenu une trousse par la suite avec l'équipe multimédia qui nous ont proposé d'en faire une plateforme web.
Et vous êtes allé bien plus loin que le DVD finalement.
Effectivement, comme je disais, avec l'équipe multimédia, ils nous ont proposé la plateforme web où il y a de l'interactivité et là, ça augmente l'intérêt, un, des jeunes et deux, du projet aussi.
Et du grand public aussi.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on entend par habileté sociale?
En fait, les habiletés sociales, c'est surtout tous les comportements qui vont nous permettre d'être en relation avec l'autre, de vivre de la satisfaction dans nos relations, et de pouvoir, en fait, avoir une participation sociale pleine.
Et en quoi ça peut être plus ardu, plus délicat chez un jeune qui vit avec l'autisme?
En fait, les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme vont avoir souvent des comportements, sans vouloir généraliser, ce sont des comportements qu'on retrouve chez la plupart, mais on sait qu'il y a autant mm-hmm. d'autistes que d'autisme. Ouais. Alors, je tiens à le dire, mais souvent, le contact visuel fuyant, le fait de préférer des jeux individuels, d'être plutôt solitaire, d'avoir de la difficulté à initier, maintenir ou soutenir une interaction, une conversation, c'est toutes des choses qui vont rendre la communication difficile.
Mm-hmm. Et de penser, de rêver à un outil qui est plus interactif, qui est sur le web également, audiovisuel, en quoi vous pensiez que ça allait davantage rejoindre les jeunes qui vivent avec l'autisme?
Mais en fait, on sait que les jeunes, de façon générale, ont un intérêt pour les technologies, pour toutes les plateformes électroniques et tout ce qui est interactif. Donc, l'idée de le produire de façon interactive a été vraiment bienvenue et très bien accueillie par l'équipe du Centre de réadaptation également, qui ont participé à l'élaboration du projet tout au long.
Est-ce que les jeunes qui vivent avec l'autisme ont davantage d'intérêt pour les technologies?
Je pourrais pas dire qu'ils en ont davantage, mais ils en ont un certain intérêt, ça c'est clair. Évidemment, on peut penser à la prévisibilité de la technologie qui peut les rassurer beaucoup et au raisonnement concret duquel ça fait appel. Ouais.
Et je pose la question parce que le Gabriel, donc le jeune ado qu'on suit à travers la plateforme, aime beaucoup les jeux vidéo.
Oui, en fait, ça a été un des deux scénarios qui a été retenu pour la plateforme, puisqu'on en avait quand même sept. Et de ça, l'équipe du Centre de réadaptation a choisi d'inviter un ami, donc où on voit les deux jeunes adolescents jouer à un jeu vidéo.
Gabriel, qui est le rôle principal, là, si on veut, celui vraiment qu'on suit et que le jeune qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme pourra s'associer, est un jeune adolescent. Est-ce que cette plateforme-là s'adresse qu'aux adolescents?
Non, en fait, ça s'adresse aux jeunes de 6 à 17 ans. Évidemment, on a dû choisir un barème d'âge pour notre protagoniste qui est Gabriel. Et Gabriel a entre 12 et 14 ans, puisque si on fait la moyenne d'entre 6 à 17 ans, qui était la demande de la clientèle pour laquelle il y avait le plus de besoins, ça nous a donné à peu près ça. Mais on peut généraliser en fait ces comportements-là, même jusqu'aux jeunes adultes. Ce sera à ce moment-là à l'intervenant d'adapter le contenu un peu.
Marie-Hélène Poulin, tout à l'heure, vous disiez, bon, on avait plusieurs scénarios sur la table, on en a choisi deux parce que la plateforme propose en effet deux scénarios, inviter un ami et également un repas, un souper en famille. Pour élaborer ces scénarios-là, comment vous vous y êtes pris?
En fait, on est surtout parti des habiletés sociales que les intervenants du Centre de réadaptation avaient ciblées. On avait des grands domaines d'habileté et des habiletés spécifiques qui ont été ciblés par sondage. Et à partir des habiletés à travailler, on a élaboré les scénarios.
Maintenant, si on veut un petit peu se mettre dans la tête des gens qui nous écoutent, qui commencent un petit peu à comprendre de quoi on parle, on pourrait parler peut-être davantage de la plateforme, comment elle fonctionne. Et pour débuter, je vais donner l'adresse apouroutre.ca si les gens veulent y aller pendant qu'ils nous écoutent. Donc, on peut aller directement via le web sur la plateforme. Et après, comment on procède, Marie-Hélène?
Oui, en fait, la plateforme, je tiens à le dire, elle est gratuite. Donc, tout le monde y a accès en autant qu'on a une connexion Internet. C'est une plateforme, d'emblée, on voit déjà qu'elle est simple et épurée, puisqu'on voulait que l'utilisateur puisse vraiment centrer son attention sur le contenu, les écrits et les vidéos. Ensuite, il y a aussi l'alphabet, évidemment, qui est mis en évidence puisque la base du langage et toute la complexité de la communication qui est représentée par l'éclatement des titres. Quand on pose le curseur sur les titres, on les voit éclater. Donc, c'était le concept de base de la plateforme. On y retrouve deux vidéos d'environ 5 minutes chacun avec des arrêts où l'utilisateur doit faire un choix entre un comportement et un autre et ensuite, on peut valider la réponse et on obtient une mise en contexte si on a la bonne ou la mauvaise réponse et ensuite quel était le comportement souhaité et pourquoi. Et à la fin de chaque vidéo, on peut télécharger aussi le guide qui comporte environ 90 pages, qui a beaucoup d'outils, on y reviendra peut-être. Mais faut aussi que je dise que pendant les vidéos, en bas de l'écran, on a une ligne de temps avec des bulles qui apparaissent, avec des textes qui ciblent les habiletés sociales au fur et à mesure qu'elles apparaissent dans la vidéo.
Oui, et qui explique en fait, tout à l'heure je vous demandais c'est quoi une habileté sociale, mais en fait c'est très très bien expliqué sur la plateforme et toutes les habiletés, que ce soit l'empathie, poser des questions, utiliser l'humour, qui sont vraiment dans le mieux-être avec l'autre finalement, comment mieux se comporter, comment être plus heureux, comment rendre l'autre aussi à l'aise, ce sont vraiment plein de pistes qui sont offertes à travers cette plateforme. Est-ce que vous avez eu le pouls de jeunes adolescents ou peut-être un petit peu plus jeunes, plus vieux, de jeunes adultes, je ne sais trop, qui ont employé la plateforme, qui l'ont utilisée?
En fait, on est présentement en diffusion de l'outil et en évaluation de la satisfaction des utilisateurs. Présentement, l'accueil est vraiment bon. On a de très bons commentaires. Même plusieurs centres en autisme européens ont fait la demande d'avoir l'outil, d'avoir plus d'informations. À date, ça va vraiment bien. Mais comme je vous dis, le processus rigoureux d'évaluation est en cours.
Oui. Vous parlez de l'Europe, Marie-Hélène Poulin, et je tiens à dire ou à le redire, si ça a déjà été dit, cette plateforme-là, c'est une première au Québec. Est-ce que vous vous êtes inspirée de d'autres initiatives du genre ailleurs dans le monde?
En fait, en français, il y a très, très peu d'outils et encore moins avec interactivité. Présentement, ce qu'on voit, c'est plutôt l'utilisation des robots pour la communication. D'ailleurs, c'est même un peu plus fort en Europe. Mais pour ce qui est des applications sur ordinateur, ce qui existait, c'était davantage, même je dirais presque uniquement en anglais, et surtout pour la formation, pour des entrevues d'emploi.
OK, donc peut-être pour une clientèle un petit peu plus âgée.
C'est ça.
D'ailleurs, parlant de clientèle plus âgée, ça m'amène à... Bon, on l'a vu, vous nous l'avez dit, ça s'adresse, oui, aux 6 à 17 ans, mais ça pourrait rejoindre aussi, bon, des gens, des jeunes adultes. Est-ce que ça pourrait rejoindre des jeunes qui ne vivent pas nécessairement avec un TSA, mais peut-être avec d'autres particularités, d'autres défis? Est-ce que ça pourrait leur donner des pistes également?
Tout à fait. En fait, la plateforme peut être utilisée pour toute personne qui désire parfaire ses habiletés sociales, qu'elle ait ou non un TSA, je pense en contexte scolaire, à des jeunes qui pourraient avoir un problème d'anxiété, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité qui peut nuire aux relations sociales ou un trouble de comportement, peu importe. En fait, le besoin de base pour utiliser la plateforme, c'est de vouloir parfaire ses habiletés sociales.
Et de quelle façon ça change le travail des intervenants? Parce que ces jeunes-là, bon, pourraient l'utiliser seul, la plateforme, mais je pense que c'est dans un but d'être accompagné d'intervenants ou de d'autres spécialistes, là.
Oui, idéalement, on aimerait que l'utilisation soit supervisée, bien que, comme vous le dites, ça peut être fait de façon autodidacte, peut-être pour les plus vieux, disons à partir de 12-14 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est de rendre explicite l'implicite, puisque les habiletés sociales, ça semble simple pour un neurotypique comme vous et moi, ou pour quelqu'un qui n'a pas de difficultés sociales, mais il y a beaucoup de comportements qui ont de l'implicite et que c'est difficile à expliquer pour un intervenant ou même à comprendre pour un jeune, même malgré de très bonnes explications. Il n'y a rien comme le voir à l'écran et voir quelqu'un d'autre le faire. Et là, l'utilisation de la vidéo est intéressante puisqu'on peut revenir sur le même comportement plusieurs fois. On peut y aller en accéléré, on peut y aller en ralenti. Il y a beaucoup de façons de l'utiliser, en fait.
Oui, et on y présente des contextes de la vie quotidienne qui peuvent se produire tous les jours.
Ça, c'était très intéressant, très important, c'est-à-dire intéressant aussi.
Mais c'est intéressant, oui.
Important dans notre choix de scénario, c'était d'avoir effectivement des scènes qui reproduisent. De là, l'utilisation du souper de famille ou chez les Québécois, en tous les cas, c'est quelque chose qu'on reproduit régulièrement, d'aller souper chez quelqu'un ou de recevoir à souper chez nous.
Oui, tout à fait. Justement, dans ce souper de famille-là, on voit la présence de la famille, on voit la présence des parents du jeune Gabriel. Est-ce que les parents seront suffisamment outillés pour encadrer leurs jeunes à travers la plateforme?
Je croirais que oui, particulièrement pour les parents qui ont un jeune qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme. Ces parents-là sont souvent très outillés, vont chercher les outils. Et je dis pas que c'est l'idéal, peut-être qu'ils auraient besoin de davantage de support, mais bon, ils doivent par la force des choses développer des compétences pour accompagner le jeune. Et je crois que c'est suffisant pour bien superviser le jeune à travers l'utilisation de la plateforme.
J'avoue qu'il y a un petit passage qui m'a fait sursauter. C'est dans la vidéo « Inviter un ami » où la maman, en début de vidéo, dit à Gabriel « Bon, tu peux appeler un ami, il peut venir ce soir jouer avec toi. Appelle-le, regarde la liste à côté du téléphone pour savoir quoi dire. Et ça, ça m'a fait sursauter parce que, Marie-Hélène, je ne savais pas qu'il y avait ce genre également de procédure là, qui pouvait venir en aide à un enfant qui vit avec un TSA.
Oui, en fait, c'est un outil qui a été développé par une intervenante du centre de réadaptation pour sa clientèle, puisqu'elle avait remarqué que c'était régulièrement une difficulté de faire un appel. Mm-hmm. C'était quelque chose où on doit ramasser beaucoup d'informations, où on a peu d'informations aussi de l'autre qui est à l'autre bout du téléphone, en fait, qu'on voit pas. Et ces jeunes-là semblaient vivre des difficultés à bien organiser l'information dont ils auront besoin pour mener l'appel.
Je trouve que la plateforme, et je le disais tout à l'heure, mais je tiens à le redire, tend à sensibiliser également le grand public. J'espère que des gens comme moi, qui ne vit pas avec un trouble du TSA, qui ne connaît personne personnellement là, non plus, qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme, ayant un contact avec la plateforme, j'ai pu vraiment découvrir plein de choses, comme justement cette petite liste-là avant de faire un appel, ou encore d'autres détails comme ça, auxquels, plein de choses dont je n'étais pas au courant. Donc, ça m'a sensibilisée beaucoup au TSA. Et j'espère que ça va franchir la clientèle que vous visiez au départ, Marie-Hélène, c'est-à-dire les parents, les intervenants et les jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, et le grand public également. Pour terminer, un petit mot sur le guide, les guides qu'on retrouve à la fin.
Oui, en fait, le guide va regrouper les notions actuelles sur le TSA et les habiletés sociales, présente aussi un répertoire d'outils qui peuvent être utilisés pour travailler la socialisation, les 7 scénarios initiales pour lesquels on a dû faire un choix de 2, et une fiche vierge pour pouvoir en travailler d'autres au gré de l'utilisateur, si on en a qu'on veut élaborer davantage. Et les 2 outils, dont celui pour faire un appel téléphonique, qui sont reproductibles à la fin.
Ah, ben on peut le retrouver là.
Oui, il est inclus à la fin du guide aussi et peut être reproduit. Tous ces documents-là peuvent être reproduits, en fait, directement sur le web.
Je répète l'adresse apouraute.ca, plateforme gratuite. Marie-Hélène Poulin, vous êtes professeure et directrice du module des sciences du comportement de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. On vous souhaite de ne pas geler. Et un très bel après-midi à vous. Merci.
Bien, je vous remercie, à vous aussi.
Bye-bye.
Bye-bye.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Joël Dargy, bonjour.
Bonjour, Mme Paquette, vous allez bien?
Oui, vous aussi?
Ben oui, très bien, merci.
Vous êtes président fondateur de premiersoins.com et formateur. Et en début d'entrevue, je dois vous faire un aveu, M. Dargy. Si quelqu'un s'étouffe à côté de moi ou a un malaise cardiaque, je ne sais pas quoi faire. Et là, j'en ris, même si ce n'est pas drôle. Je sais que ce que vous allez me dire, c'est vous devez prendre une formation ou vous êtes dû du moins pour une formation parce que j'en ai déjà pris dans le passé, mais... Bon, la mémoire est une faculté qui oublie. Ça serait plus vraiment du matériel frais pour moi. À quelle fréquence on devrait suivre des formations de premiers soins?
Je vous dirais qu'à la base d'une formation, évidemment, il y a des changements fréquents qui sont faits selon les normes. À chaque 3 ou 5 ans, il y a des modifications. Donc, on pourrait dire qu'à chaque 3 ans minimum, Okay. On devrait se rafraîchir la mémoire un peu et pour être en même temps plus à l'aise avec les situations d'urgence. Donc, oui.
Oui, parce que vous parlez d'être à l'aise et je trouve que c'est un très bon point parce que beaucoup de personnes vont me dire, et moi j'en suis également, je fige un petit peu quand il se passe quelque chose d'un petit peu plus urgent, d'un petit peu plus problématique. Je fige, ou du moins, je pense que j'ai peur de figer, mais en ayant des connaissances au bout des doigts, peut-être que je serais plus prête à agir. Est-ce que c'est une peur qu'on vous exprime souvent, ça?
Ben, effectivement, c'est un bon point. C'est que lorsqu'on débute les formations, les gens ont un peu d'inquiétude ou de crainte, mais la formation est tellement facile, les techniques sont tellement de base, faciles à apprendre, que ce soit enfant, bébé, adulte. Donc, ça se fait facilement et on apprend vraiment la facilité à laquelle d'agir est facile. Il s'agit de ne pas paniquer, de prendre le temps de faire ce qu'on connaît et ça se fait tout seul. Évidemment, en le faisant à chaque 3 ans, ça va bien aussi. Là. On s'en souvient mieux. Là.
À partir de quel âge on peut suivre une formation?
Je veux dire qu'à partir de l'âge de 5 ans, les gens peuvent prendre prendre des cours de secourisme averti de niveau 1. Donc, d'apprendre la base, de savoir comment réagir dans une situation qui est anormale, les mesures de protection, les réconforts à la victime, appeler le 911. Donc, ces petites choses-là peuvent être apprises à très bas âge, évidemment, jusqu'à 99 ans. Donc, il n'y a pas de limite pour l'âge.
Et on ne le redira jamais assez, M. Dargy, c'est important parce que, pour plein de raisons, bien sûr. Et la première, c'est parce qu'on peut sauver des vies, mais aussi, c'est qu'on diminue les dommages. Par exemple, si on pense à un accident cardiovasculaire, là, on peut vraiment réduire beaucoup les dommages sur le corps de la personne.
Définitivement. En réalité, c'est que lorsqu'on agit rapidement, si on parle de réanimation cardio-respiratoire, là, pour les gens, mettons, à la radio, on peut dire les gens qui sont en... le cœur arrête de fonctionner. Oui. Plus qu'on agit rapidement en faisant les compressions et plus qu'on amène un défibrillateur sur place pour aider le cœur à repartir, on a les deux ensemble, on a à peu près 60 % des chances de ramener la personne à la vie. Ouais. Donc, sans séquelles. Donc, c'est ce qui est important, c'est nous, c'est d'avoir du sang au niveau du cerveau pour lui permettre de rester en vie et de rester sans séquelles au niveau du cerveau. Là.
Quelles sont les techniques de base à connaître?
Je vous dirais que, comme on a dit, qu'on a dit tantôt, la réanimation cardio-respiratoire, donc le RCR, l'utilisation d'un défibrillateur, ça aussi, c'est assez facile, donc c'est assez de base aujourd'hui, donc c'est plus accessible à tous, et le déblocage des voies respiratoires, là, comme on a parlé en début d'entrevue.
En cas d'étouffement, ça?
Oui, exactement, oui.
Oui. Est-ce que c'est différent, je pense, on parle là, d'étouffement, j'imagine que c'est assez différent si on s'adresse là, à un petit bébé de 6 mois, 1 an ou à un adulte?
Mais la méthode de base est la même, c'est toujours des pressions au niveau abdominal. C'est sûr qu'un enfant, un adulte, c'est vraiment pareil. Le bébé, il y a une petite mettons, différence, mais c'est vraiment pas... difficile à apprendre. C'est vraiment de base. Mm-hmm. C'est facile.
Quels sont les premiers gestes à effectuer en cas d'urgence?
Évidemment, c'est de vérifier les lieux. Les lieux ne sont pas sécuritaires. Il ne faut pas se rendre sur place. Si on se met en danger, on est rendu une deuxième personne qui va être soit décédée ou en demande d'aide. Après ça, ça va être d'appeler 911, donc d'appeler l'aide pour aller aider la situation, que ce soit le 911, la ville, les pompiers, évidemment les ambulanciers, donc tout ce qu'il y a, les services médicaux d'urgence. Et après ça, c'est de secourir les personnes en besoin selon nos connaissances. Si on n'a pas de connaissances, on peut quand même aider en faisant les compressions au niveau thoracique. C'est le minimum qu'on peut faire aujourd'hui. Là.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut prévenir, ne serait-ce que par observation ou des petits gestes là, qu'on pourrait même effectuer avant que le pire arrive?
Bien, définitivement, c'est dans c'est les gestes de tous les jours, que ce soit des gens avec des enfants, c'est observer nos agissements, faire des modifications à nos habitudes, mettre une clôture si on a des enfants à la maison pour éviter qu'ils tombent en bas des escaliers. Donc, c'est toutes des choses. Ouais. C'est juste d'être à l'affût de ce qui peut arriver. Et à ce moment-là, on peut faire des préventions faciles.
Et j'imagine aussi, si on a une piscine à la maison ou si on a un chalet près d'un lac, évidemment, il faut connaître aussi là, tout ce qui a rapport au sauvetage ou de connaître aussi nos habitudes de vie, puis d'aller avec tout ce qui peut, tous les paramètres de sécurité autour.
définitivement. Évidemment, il y a des réglementations, on ne rentre pas là-dedans aujourd'hui, mais si on est dans un chalet, on a un lac, évidemment, c'est de faire attention à nos enfants, c'est les pires, c'est eux autres qui ne savent pas que le danger est présent. Mm-hmm. Mais c'est juste de les avoir alentour puis de faire attention pour qu'ils connaissent ce plan d'eau-là et non de juste le découvrir un matin en se levant.
Joël Dargé, vous êtes également patrouilleur de ski. Donc, oui. Vous sillonnez les pentes de ski de façon bénévole l'hiver pour assurer la sécurité des skieurs. Dans des contextes un petit peu plus isolés, comme une pente de ski, par exemple, quelles sont les actions à effectuer?
Bien, c'est sûr que pour nous autres, on a des formations un peu plus spécifiques. Donc, on va... Donc, immobiliser les membres qui sont affectés ou la personne, si en tant que telle, elle a une commotion ou quelque chose de genre. Donc, on va l'immobiliser et on va devoir, nous autres, la déplacer pour aller vers en bas de la piste pour les remettre aux ambulanciers qui puissent faire pratiquer les mm-hmm. soins ultérieurs. Mais les gens qui sont, par exemple, à niveau isolé peuvent aussi prendre des formations, par exemple, des formations en région éloignée qui mm-hmm. vont pouvoir à ce moment-là aider... Autant nous autres, comme les patrouilleurs de ski, autant ces gens-là qui sont à l'extérieur ou des monteurs de ligne vont prendre des formations ouais. pour des régions éloignées qui vont être aussi capables de déplacer et d'aider ces gens-là qui sont éloignés des
grands
centres. Principaux artères.
Ouais, ouais, ça, ouais. Ouais. Comment se renseigner pour prendre des formations?
Vous avez différents sites Internet. Vous avez le site Internet de les Fondations de maladies du cœur du Québec. Vous avez le site Internet de la Croix-Rouge canadienne. Évidemment, on a notre oui. propre site,
premiersoins.com
au pluriel. Dans la section formation, vous envoyez aussi des courriels à formation@premiersoins.com où vous nous appelez s'il y a des questions. C'est facile pour s'informer.
Et ça coûte combien?
Je voudrais qu'un cours en général va coûter en les environ moyenne, mettons, 80 $, environ 85 $. Si on prend des bons cours, je dirais le meilleur cours qui serait là, à l'heure actuelle pour une personne, mettons, dans le général, là, ça serait des cours de secourisme général avec la Croix-Rouge, qui sont à peu près 121 $ le plus taxe. Donc, c'est un bon cours de 16 heures. Mais si les gens veulent aller moins de temps, donc plus précis, moins de temps à la formation, il y a des cours de 8 heures d'environ dans les 80 $. Là, ça peut...
Et on parle de 16 heures, donc c'est à peu près un week-end, là, puis on
oui,
est formé
ben oui,
pour 3 ans.
Ben oui, ça se fait très bien. Là. Même les mères de famille peuvent amener leur enfant. Donc, les papas à la maison.
Il n'y a plus de raison pour ne pas prendre de cours, Joël Dargé. Je rappelle que vous êtes président fondateur de premiersoins.com, formateur également, patrouilleur de ski. Pour ceux qui aiment skier, ils vous croiseront peut-être. Et je rappelle très rapidement que les entreprises... doivent donner aussi des cours de secouristes. Joël Dargé, ben en fait, doivent fournir à leurs employés. Donc, merci Joël Dargé et nous, on se retrouve